Bonjour Karine Berger.
Bonjour.
Après sa déroute aux élections législatives, est-ce que le Parti Socialiste sert encore à quelque chose?
Ah oui, c'est le Parti Socialiste est bien là. Il est, contrairement à ce que certains souhaiteraient, notamment à droite, parce qu'ils sont de toute évidence obsédés par ça, le Parti Socialiste n'est pas mort. On a évidemment une lourde défaite sur les bras. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à reconstruire, mais c'est quelque chose qui arrive dans tous les partis et le PS le fera, oui, bien sûr.
Le PS qui est passé de plus de 300 élus, PS et Alliés, plus de 300 élus à 30 aujourd'hui, donc un groupe divisé par 10. À quoi va-t-il servir ce groupe PS à l'Assemblée?
Ah, moi, je ne fais pas partie du groupe PS. Donc,
on l'a bien noté, vous auriez bien aimé.
Oui, oui, les députés sont souverains. Mais le groupe PS, il montrera qu'il existe bel et bien une voie de gauche social-démocrate à l'Assemblée nationale, qui, par exemple, si on prend l'information qui est tombée ce matin, va s'opposer à un allègement des interdictions des néonicotinoïdes qui est annoncé par le gouvernement. C'est sur des décisions très concrètes qu'on verra que la droite, la gauche et En Marche, c'est absolument pas la même chose.
Et En Marche, c'est où alors? C'est plutôt à droite, si je vous entends bien.
Alors, sur les questions d'éducation, sur les questions économiques, sur les questions sociales et de toute évidence aussi sur les questions écologiques, La République En Marche se situe de plus en plus à droite.
Alors, samedi, le Conseil national du PS a décidé de ne pas voter la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. Vous auriez été député, vous auriez suivi cette ligne?
Alors, si j'avais été députée, j'aurais voté contre, effectivement, mais le sujet, il est surtout la position du Parti Socialiste. On a un parti politique qui donne une ligne, qui dit deux choses très importantes samedi. Un, on est dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. Nous ne soutenons pas ce gouvernement.
Se situe et deux, clairement dans l'opposition. C'est le texte qui a été voté.
Exactement. Et donc, évidemment, si on est dans l'opposition, on ne peut pas voter la confiance au gouvernement.
Est-ce que c'est la seule façon pour le PS de continuer à exister?
Non, c'est pas une question d'existence, c'est une question de position politique. On va peut-être enfin revenir sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur depuis des mois au PS, revenir sur des positions de fond. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec l'abandon, notamment pour les écoles primaires des quartiers populaires, de cinq matinées d'école dans la semaine? Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec la suppression de l'ISF sur les plus gros revenus du capital? Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec l'abandon du prélèvement à la source cette année, etc., etc., etc.? Et ben, sur ces questions-là, et ça a été l'unanimité du Parti Socialiste samedi. Non, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est là-dessus que le Parti Socialiste va se reconstruire, c'est-à-dire sur des positions de fond, et des positions de fond que je continue à qualifier de social-démocrates, qui sont tout simplement des positions de fond de gauche.
Karine Berger, vous a pas échappé que, comme d'habitude, le PS se divise. On a trois députés qui se disent constructifs et qui veulent apporter un soutien exigeant à Emmanuel Macron.
Bah, les députés sont souverains, j'ai les rappelé, et c'est important de l'avoir en tête. Et pour avoir vécu 5 ans à l'Assemblée nationale avec des débats sans fin au sein du groupe, je peux vous confirmer
que des frondeurs et quelques autres choses
voilà,
de ce genre.
Le député est totalement souverain. Après, libre à ceux qui ne choisiront pas d'être dans la ligne du parti, de s'éloigner du parti.
Enfin, de s'éloigner du parti. Ils sortent d'eux-mêmes du parti, c'est ça que vous dites?
De fait, si vous considérez que vous êtes en soutien à un gouvernement et que le parti politique jusque-là était le vôtre, considère que c'est l'opposition, je pense que, enfin, moi, à la place de ces députés, je me sentirais quand même pas très très représentée dans ce parti.
Ils disent un soutien exigeant, ça veut dire qu'ils pourront voter certaines choses et pas d'autres.
Ah, mais ça
pour est-ce le que coup, ce c'est... sera la position du PS dans son ensemble?
Non seulement c'est la position du PS dans son ensemble, mais c'est dans le communiqué de samedi. On prend l'exemple de la première loi qui, je l'espère, sera bien, bel et bien la première loi d'ailleurs de transparence financière. À ce stade, le texte tel qu'on le connaît justifie un vote. Donc le sujet n'est pas un vote favorable. Ouais. Et j'oserais rappeler qu'en 1974, si la gauche n'avait pas voté la loi Veil, l'avortement n'aurait pas été autorisé en France. Le sujet de voter loi par loi, ce qui nous paraît être des avancées, c'est une évidence.
C'est pas toujours le cas. Ça ne correspond pas aux pratiques politiques les plus communes.
Je pense
on
que
voit
c'est
bien
une,
quand on est un parti d'opposition. Qu'on s'oppose.
Je pense que c'est une erreur de lecture. Moi, j'ai vu au cours des 5 années qui viennent de se passer, contrairement à ce qui est rabâché, notamment, si vous me permettez, par les médias, j'ai vu beaucoup de cas où la droite a voté des textes. Je pense à la loi dont j'étais...
C'est peut-être la droite qui le dit aussi. On a été dans l'opposition, bien dans l'opposition.
Tout à fait. Mais il se trouve que dans la réalité, ils ont voté plusieurs textes qu'on a portés. Et c'est logique. Le nombre de textes qui sont portés à l'Assemblée nationale justifie largement qu'on ait des accords républicains sur un certain nombre. notamment sur les sujets évidemment de lutte
donc
contre le terrorisme.
Donc pas d'opposition radicale à ce que va faire le gouvernement.
Bien sûr que non, mais une opposition de ligne politique. Parce que tout ce qui est proposé jusqu'à présent est un retour en arrière sur des avancées sociales ou des avancées économiques.
Vous voulez parler de la réforme du Code du travail, notamment ?
Alors, il y aura bien évidemment la question du Code du travail. On a commencé, ils ont commencé, ce gouvernement, par supprimer les 4 jours et demi d'école, c'est-à-dire pour les enfants des quartiers populaires, une demi-journée de lecture et de calcul en moins. Et ben bon, je suis désolée.
C'était dans le programme en même temps d'Emmanuel Macron.
Tout à fait.
Il y a une majorité de Français qui manifestement a à la fois voté pour ce président et voté pour les élus qui vont porter ces réformes à l'Assemblée.
Tout à fait, c'est pour ça que le Parti Socialiste ne s'y retrouvera jamais, est un parti d'opposition aujourd'hui.
Et la réforme du Code du travail, qu'est-ce que vous avez à dire de différent par rapport à ce que veut faire passer Emmanuel Macron ?
Alors, des tas de choses. Déjà, il faut la petite problématique, c'est qu'on n'a toujours pas le texte réel de ce qui sera proposé. Alors, déjà,
et qui passera par ordonnance.
Deux choses. La première chose, c'est la méthode. Revenir sur un équilibre social et un équilibre notamment de contrat individuel par ordonnance, c'est-à-dire sans donner la possibilité du débat à l'Assemblée nationale, c'est antidémocratique.
Oui, parle de réforme du Code du travail, on va vous renvoyer la loi travail, la loi El Khomri, oui. Débat à l'Assemblée, mais 49-3 au bout alors.
Et vous savez, j'imagine que je fais partie des députés qui à l'époque
avaient demandé
la démission du Premier ministre du fait de l'utilisation du 49-3. Donc je suis
cohérente.
Mais
là, ce sera assez difficile pour les socialistes de dire bon, vous passez en force alors que la loi travail version El Khomri était passée en force aussi d'une certaine manière.
Je crois vraiment que là pour le coup le consensus au sein du Parti Socialiste est clair, il y a un regret total de la façon dont s'est passée la loi El Khomri et notamment sur la méthode, c'est-à-dire l'utilisation du 49-3. Mais alors sur le fond ça sera beaucoup plus intéressant parce que même si le débat n'a pas lieu à l'Assemblée nationale, sur le fond il y aura quand même des positions des différents syndicats, des positions des différents partis politiques, peut-être aussi des positions des salariés à titre individuel. Quand on va expliquer aux salariés que leur contrat à durée indéterminée n'est en fait plus un contrat à durée indéterminée, mais qu'ils peuvent être licenciés un peu du jour au lendemain en fonction des desiderata de l'entreprise. Peut-être qu'on va commencer à réaliser...
Pourquoi est-ce que les salariés qui vont s'inquiéter, si je vous entends bien, ne se sont pas inquiétés avant alors que c'était sur la table au moment de la campagne électorale ?
Alors ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu jusqu'à le deuxième tour de l'élection législative, de précision sur ce qu'était la proposition de modification du contrat à durée indéterminée. Le premier texte, reconnu un tout petit peu par le gouvernement, a été rendu public 48 heures après le deuxième tour de l'élection législative.
Il a été malin et a caché ses intentions, c'est ça ?
Il a manqué de transparence sur l'objectif qu'il voulait donner à sa réforme du marché du travail.
Et Karine Berger, je vous entendais dire regret total sur la méthode autour de la loi El Khomri. À quoi vous devez cette déroute électorale ?
C'est collectif. Je veux dire, j'en prends ma part. Tout le monde en prend sa part. C'est quand on est battu et qu'on a gouverné le pays pendant 5 ans et que par ailleurs on avait beaucoup de leviers de pouvoir au début de ce quinquennat, en plus de l'Assemblée, on doit tous se sentir co-responsables. Après, je ferai moi ce que je peux faire désormais, c'est-à-dire au sein du Parti Socialiste, faire en sorte que les lignes qui n'étaient plus du tout claires à l'intérieur du Parti Socialiste, les lignes politiques, le redeviennent dès la prochaine occasion, c'est-à-dire au prochain congrès, c'est-à-dire, je l'espère, à la prochaine refondation.
Merci Karine Berger.
Merci à vous.